Alors j'aimerais prendre avec vous un passage qui est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée 2, versets 20 à 21. Il est écrit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » On va prier encore courtement. Seigneur, merci encore pour cette parole et toute la parole, Seigneur, qui est inspirée, qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que nous soyons propres à te servir, à t'aimer. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole qui est inspirée, divine, qui est du pain, qui est une lumière, qui est tout ce qu'il nous faut, Seigneur, pour vivre avec toi. Et Seigneur, bénis-la, s'il te plaît. Bénis ta parole, bénis les Écritures, la communion, Seigneur, et que tu sois glorifié. Merci, Seigneur, de m'aider dans la délivrance de l'explication de ce passage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans vos maisons, vous avez tous des récipients. On a tous des récipients. Vous avez toutes sortes de récipients. Si vous jetez un coup d'œil dans vos armoires, vous en trouverez des précieux que vous êtes prêt même à mettre en avant. Et puis d'autres que voilà, plutôt vous les cachez. Hein, c'est pas ce que vous allez mettre en avant. On a notre petite Loïs qui est pas bien là. Elle est malade. Hier soir, elle dit oh là. Ça commençait à tourner vite. Hop, on est allé lui chercher un récipient qui est destiné à cela. Hein, c'est le récipient. On sait où il est en cas d'urgence. On peut aller chercher. On est sûr que voilà, il est toujours là, juste au cas où. Avant, quand j'habitais pas très loin d'ici, je passais souvent devant un garage qui parfois était ouvert. Et au fond, il y avait tout un tas de coupes. En fait, c'était un jogger, quelqu'un qui fait du jogging et qui gagnait mais course sur course, hein, parce que c'était tapissé du haut jusqu'en bas. Évidemment, ben, ça compte, hein, pour quelqu'un qui fait du sport, une coupe, hein, parce que ben, c'est le symbole de voilà, il a travaillé, il a lutté, etc. Et puis souvent c'est beau, on l'expose. Parfois, bon, lui il l'exposait pas, c'était dans le garage. Mais néanmoins, s'il est malade, c'est pas ça qu'il va prendre pour mettre au pied de son lit. Ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Et Paul a pris cet exemple des vases d'or et d'argent précieux, et puis de bois et de terre, pour nous faire comprendre des vérités importantes. C'est que nous sommes, chacun, nous sommes des récipients pour le Seigneur. On est des récipients. Certains sont précieux, d'autres sont plus vils, malheureusement. Et si la ménagère dans la cuisine, elle est vigilante pour pas mettre n'importe quoi dans quel récipient, dans chaque récipient, et si elle va exposer un vase plutôt qu'un autre, eh ben de la même manière, le Seigneur, il va agir avec ses enfants. Tout dépend de ce que nous sommes en fait, hein, voilà, mis en valeur ou moins. Et Dieu ne nous choisit pas d'une manière impartiale pour dire « Ah, celui-là, il sera vil, celui-là, il sera précieux ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est nous qui choisissons ce que nous voulons être pour Dieu. C'est notre choix, ce sont nos décisions, c'est la trajectoire que nous donnons à notre vie qui va déterminer quel est le vase que nous serons. Et si Dieu eh bien, pourra nous utiliser ou pas. Dieu veut que tous on soit des vases d'argent et d'or. C'est une évidence, hein, une évidence. Mais ça dépend toujours de nous. Et c'est ce qu'il a voulu expliquer à ce jeune Timothée, parce qu'il voulait le meilleur pour lui. Alors on a lu son exhortation au verset 21. Il dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. » Alors de quelles choses parle-t-il ? Alors les choses mauvaises dont il doit s'abstenir, eh bien on les trouve avant et après ce verset. En fait, tout autour de notre texte. Hein. C'est par exemple au verset 16, donc il dit Verset 16, il dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Et par exemple, il y a des conversations, elles sont vides, elles sont creuses, elles sont sans intérêt, ça n'a aucun sens. Hein. Souvent, j'ai pas de télé, mais souvent, si je me retrouve devant une télé et que je regarde un petit peu les émissions aujourd'hui qui font qui ont l'audimat aux heures d'écoute, voyez, dans la soirée, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe où il y a quelques personnalités autour d'une table qui s'amusent, qui caricaturent, qui se moquent, qui sont vulgaires et qui se plaisent dans leur vulgarité. Ça laisse vide, ça laisse sec, hein, un enfant de Dieu. Paul dit à Timothée, évite hein, tout ce qui est de cet acabit, tout ce qui est mauvais et qui conduit vers l'impiété. Parce qu'on descend vers l'impiété si on se nourrit de l'impiété. Ça, c'est quelque chose de certain. Si on se plaît devant ces choses, ben, ça nous plonge. Hein. Ah, on rigole, mais on ne rigole pas de choses belles. Au verset 19, à la fin, Paul dit encore, « Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne. » Et parmi ces choses dont il faut s'abstenir, eh bien sûr, c'est l'iniquité, c'est le péché. Et un vase ne peut être un vase d'honneur que si il est pur, il est propre et il n'est pas nourri de choses qui ne sont pas bonnes. Sinon, il va servir d'un usage vil. Notre cœur, la parole de Dieu dit, notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, notre corps. Hein, si on l'a reçu, il habite en nous. Mais il peut nous remplir uniquement si on veille justement à être propre, à avoir un cœur qui est purifié. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Sinon, on va être un vase de bois, un vase de terre, et ce n'est pas quelque chose qu'on va exposer, qu'on va mettre en honneur. Mais ces choses dont il faut s'abstenir, c'est aussi la suite de notre passage. Regardez verset 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse ». Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions. Et le terme passion ici, il se trouve 37 fois dans le Nouveau Testament et 24 fois, il est traduit par convoitise. Ça pourrait être fuis les convoitises de la jeunesse. On peut le dire. Fuis les convoitises. Et donc, quand Paul parle de mauvais désirs, de passions, hein, eh bien, il parle de... On est happé hein, par toutes sortes de convoitises. Et ça porte un coup à la vie précieuse, à la vie avec le Seigneur. La Bible nous dit que la corruption existe dans le monde par la convoitise. La corruption par la convoitise, c'est lié. Les deux sont ensemble. Et qui ne convoite pas ? Tous à différents degrés, on est dans un monde hein, qui nous stimule à la convoitise. Donc c'est facile hein, de convoiter ci, ça, et puis on veut toujours plus, mieux. Et ça nous affaiblit spirituellement. Paul dit en Romains, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça se rapproche ici de notre passage, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et Dieu nous appelle à élever nos vies vers le spirituel, vers les vertus chrétiennes en fait. Hein. C'est ça qui donne une vraie valeur, qui fait de nous des vases d'honneur quand on aspire à ces choses-là plutôt que aux choses de cette terre, et terre à terre. Alors j'aimerais donner des exemples. Dans cette deuxième lettre écrite pour Timothée, Paul justement de quatre manières qui peuvent nous amener à devenir des vases vils, donc d'un usage vil. Donc c'est quatre cas, quatre personnes, ou personnes plurielles, qui ont fait de mauvais choix, et puis ils sont devenus des vases sans grande valeur. C'était leur choix. Et puis après, on verra d'autres personnes qui, elles, sont devenues des vases d'honneur, qui ont été mis en avant. Premier cas se trouve dans chapitre 1 et verset 15, toujours dans la même épître, la deuxième épître à Timothée, chapitre 1 et verset 15. Paul dit, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figel et Hermogène. Donc, plein de personnes avaient abandonné Paul, et il y avait Figel et Hermogène, alors apparemment deux femmes. Elles s'étaient engagées, mais finalement, eh bien, elles ont décidé de laisser l'apôtre travailler seul dans son travail missionnaire. Elles l'ont mis de côté. Elles n'ont pas voulu aller plus loin dans leur service avec le Seigneur. Ah, maintenant, quelle est la raison? En fait, il semble que la raison, c'était la honte. Pourquoi la honte? Parce que Paul parle beaucoup de la honte avant et après. Quand vous prenez toute l'épître, regardez par exemple verset 8, donc premier chapitre verset 8, il dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ». Verset 12, un petit peu plus bas, il dit « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru ». Et puis, il va parler de Figel et Hermogène, et regardez ce qu'il dit juste après, verset 16, « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. » On voit que cette honte-là, elle est omniprésente dans ce premier chapitre. Et l'opprobre, la honte, eh bien, peut nous pousser à rebrousser chemin, finalement. Oui, on veut bien de Jésus, notre Sauveur, mais voilà, on n'est pas prêt à aller jusqu'au bout du témoignage. Témoigner pour Jésus-Christ. Alors on va taire sa foi, on va pas l'exposer, hein. On va devenir de plus en plus discret, jusqu'à devenir complètement effacé. Voilà, certains se disent, mais voilà, je ne vais pas trop parler parce que, hein, qu'est-ce qu'ils vont penser finalement? Comment ça va se passer? Et le refus de prendre position pour le Seigneur et de d'afficher sa foi, ça nous place dans une situation où on devient un vase de terre, puisqu'on ne peut pas être utile. Si Dieu a besoin de nous pour parler à quelqu'un, il sait que s'il nous le dit, on ne le fera pas. Parce que, pourquoi? Eh bien, on a perdu l'habitude. On peut perdre l'habitude de témoigner et d'afficher sa foi. Et on devient un vase de terre. Souvenir de ce que Jésus a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et le Seigneur, au travers de Paul, dit à Timothée, n'aie donc point honte à rendre témoignage à notre Seigneur. Et donc le vase d'honneur, c'est quelqu'un qui est disponible, le Saint-Esprit dit, allez, vas-y, parle. Vas-y, donne un traité, vas-y. Oui, tout de suite. On a envie, on est sensible à ça. Il est dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel, quel honneur, quelle grâce. On est le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, eh bien avec quoi la lui rendra-t-on? Si on n'est pas capable d'apporter un peu de sel, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un fait que si on n'entretient pas ce désir, cette volonté de témoigner, de parler de Jésus, eh bien petit à petit, on s'endort. Hein. Et le jeune chrétien, si vous le regardez, il témoigne, il invite facilement. Regardez-vous votre propre vie chrétienne. Peut-être au premier temps de votre vie chrétienne, vous avez beaucoup invité aussi, beaucoup parlé du Seigneur. Est-ce que vous parlez autant encore aujourd'hui? C'est, on peut petit à petit, on s'endort, et qu'est-ce qui se passe? On perd l'habitude. On n'a plus cette habitude, ce réflexe, ce désir, et voilà, ça devient difficile. Et on peut s'enliser dans une vie qui a perdu cette saveur. Prenons un autre exemple d'autres vases sans valeur. Il se trouve au chapitre 2 et versets 16 à 18. Paul dit « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. » Donc voilà deux autres vases de bois, de terre, s'ils étaient réellement chrétiens. Je dis « si », hein. Je mets ainsi parce que bon, C'est Dieu qui sait exactement ce qui était dans leur cœur. Mais s'ils ont bien commencé, eh bien les voilà qui tombent, et puis qui tombent même dans une mauvaise doctrine. C'est une chute, des discussions vides, et puis après, prof, c'est la chute. Dans l'alpinisme, on va dire, ils ont dévissé. Voilà, on dévisse et on chute. Et on peut dire vraiment, c'est ce qui s'est passé pour Hyménée et Philète. Ils ont dévissé de la vérité. Et ils se sont mis à enseigner que la résurrection était déjà arrivée. Une personne a, on peut se dire, elle a dévissé de la vérité. Alors peut-être ça va vous surprendre, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ou lu, mais Billy Graham, qui est voilà, un chrétien incroyable, eh bien on peut dire qu'il a dévissé d'une certaine manière. Quand on regarde une petite partie de sa vie, vous lisez tous ses premiers ouvrages, c'est magnifique, c'est nourrissant, sans reproche. Force, fidélité, intégrité. Mais si vous regardez l'ensemble de ses déclarations sur toute sa vie, et bien là, vous êtes surpris. À la fin de sa vie, vous êtes surpris. Dans une revue, une entrevue à Newsweek, M. Graham a dit, il a ouvert la possibilité qu'une personne puisse être sauvée par l'intermédiaire d'une autre religion. Il a formulé des doutes sur les miracles de la Bible et il a fait la promotion de la religion œcuménique universelle. C'est quand même fort tout ça, hein? Par exemple, il ne croit pas que les chrétiens doivent prendre chaque verset de la Bible, littéralement. Il dit « Je ne suis pas un littéraliste qui croit que tous les mots et les titres proviennent du Seigneur. Je ne suis pas un littéraliste. » C'est terrible de dire ça. Au départ, mais il était vraiment très attaché. Et puis après, petit à petit, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'on lui demande si les bons juifs, musulmans, bouddhistes seront sauvés, il est évasif, il ne tranche plus. Il ne dit plus non. Voilà. Peut-être on veut essayer de faire qu'on est tous amis. Il va argumenter aussi sur le sens exact du mot jour dans la Genèse, disant qu'il est figuratif. Il se demande si la mer rouge ne serait pas mieux traduite par la mer des roseaux. Donc, mer des roseaux, c'est plus la mer rouge, quoi. Hein. C'est pas celle où on se noie. Donc, ça commence à poser problème. Mais si la Bible, elle est inspirée dans tout ce qu'elle affirme, si Dieu a voulu dire ce qu'il a voulu dire, on ne peut pas toucher à l'intégrité de la parole de Dieu. Sinon, on vient attaquer le fondement, en fait, de notre foi. Dans le psaume 11, verset 3, il est dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ?» Si on renverse les fondements, mais il ne nous reste plus rien, quoi. Notre appui, c'est là. Voilà. Remettre en question des points de doctrine aussi que la bibliologie, ça invite à se remettre en question et se dire, mais voilà, est-ce que, on ne devient pas par là, un vase d'un usage vil? Un troisième cas d'un usage vil se trouve dans chapitre 4, versets 9 et 10. Paul dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Et là aussi, on peut dire une personne qui a fait le choix, c'est un choix, de devenir un usage vil, plutôt que de devenir un usage d'honneur, un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Il s'est laissé happer par le monde. Et c'est un danger pour nous, enfants de Dieu, évidemment. Dieu nous laisse au milieu du monde. Et on peut être tenté, c'est vrai, on regarde les autres et on se dit, mince, l'abondance, tout ce qu'ils ont, et ils travaillent, et bien sûr, nous aussi on travaille, mais peut-être on pourrait travailler plus, et gagner plus, et voilà, avoir toujours plus. Et on imagine parfois que peut-être la vie serait plus heureuse, si. Et le diable appelle comme ça les enfants de Dieu à sortir du sentier étroit, pour avoir plus, toujours plus. Et Démas, il n'a pas su résister. Il n'a pas voulu résister. Alors qu'il était avec le plus grand théologien de l'histoire, l'apôtre Paul, qui était un exemple d'amour, de foi, de piété, de sainteté, ben, il a abandonné Paul. Et il a été happé par ce monde hein, qui brillait pour lui, pour son époque. Et c'est une chimère que de croire que la vie, elle sera mieux, elle sera plus belle, elle sera plus heureuse si on va se conformer, prendre la forme du siècle présent. On n'appartient plus au siècle présent. On est des nouvelles créatures si on a cru en Jésus-Christ. Et vouloir se conformer au siècle présent, c'est comme vouloir rentrer dans quelque chose qui ne peut pas aller. Vous savez, les petits enfants, au départ, quand ils commencent à toucher à tout, ils prennent des choses, ils essaient de rentrer des objets dans là où ça ne rentre pas, ça ne peut pas rentrer. Et nous, enfants de Dieu, on n'est plus de ce monde. Étrangers, voyageurs sur la terre. On est là pour un cheveu de temps, c'est très bref, et c'est fini. Et c'est fini. Et donc, faire ce choix d'aimer le siècle présent plutôt que de suivre et d'aimer Jésus-Christ, c'est se garantir un usage vil, un usage secondaire. Un quatrième et dernier cas se trouve au chapitre 4 et verset 14. Paul dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Donc, Alexandre, comme en 1 Timothée, donc dans la première épître à Timothée, on apprend qu'il a blasphémé avec Hyménée, ça nous invite à la plus grande prudence vis-à-vis de cet homme. Hein, on se dit quand même, blasphémé, ça ne me semble pas possible pour un chrétien. Néanmoins, l'attitude d'Alexandre nous montre une quatrième manière qui fait qu'on ne peut devenir que quelque chose de vil, hein, c'est de garder de l'amertume dans le cœur vis-à-vis d'un chrétien. Parce que il avait de l'amertume, même on peut aller jusque de la haine pour l'apôtre Paul. Et c'est sûr que en prenant en haine un enfant de Dieu et en lui faisant du mal, c'est une manière certaine de devenir un vase inutile. Ça, c'est sûr. C'est certain. Un vase qu'on ne peut pas sortir pour de grandes occasions, un vase qu'on va cacher. Chaque chrétien qui fait du mal à un autre chrétien est en train de se faire du mal à lui-même. Il se fait du mal à soi-même. Parce que le pardon, c'est pas un choix que Dieu nous laisse. Le pardon, c'est une obligation. On est obligé de pardonner. À cause du pardon que Dieu nous a accordé, alors il n'y a pas le choix. Il faut pardonner. C'est ça ou c'est voir Dieu s'opposer à nous, directement. On peut se souvenir de cette parabole du Seigneur où un serviteur à qui le maître avait remis la dette, après lui n'a pas voulu remettre la dette qui était insignifiante. Et le Seigneur a dit, dans cette parabole, Jésus conclut par les mots, il dit « Son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. » Et il ajoute « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Dieu ne nous laisse pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé. Ah, mais il ne m'a pas demandé pardon. Mais même, bien sûr, le meilleur, c'est quand la personne, elle reconnaît, elle demande pardon. Mais s'il ne m'a pas demandé pardon, je pardonne quand même. Je pardonne quand même. On a le devoir, l'obligation d'accorder notre pardon. J'ai lu quelque chose d'intéressant sur le pardon. Accorder son pardon ne signifie pas que l'on ne se souvient plus de l'offense. On se souvient tous des offenses que nous avons subies, mais le pardon signifie que j'ai pris la décision de ne plus faire cas de l'offense. Je passe dessus et prends sur moi le coup. C'est ça, pardonner, vraiment. Et chaque fois que la pensée de l'offense ressurgit, on fait le choix de la remettre aux pieds du Seigneur. Terminé. Ça, c'est pardonner. C'est refuser de ressasser, de réexaminer, de ramener à la surface l'offense et on la ramène et on la ramène. On raconte qu'un homme se plaignait un jour auprès de son conseiller. Il dit alors, chaque fois que nous nous querellons avec ma femme, elle devient historique. Il dit, mais vous voulez dire hystérique ? Ah non, 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 historique. C'est qu'elle me rappelle chacune de mes fautes. Et quand on est historique, on n'a pas compris ce qu'était le pardon. Pardon, c'est terminé. Le vrai pardon, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Parce que c'est le choix de ne pas revenir sur le passé. De ne pas retourner dans l'offense du passé. Et c'est un combat. C'est vraiment un combat, hein, parce que ça remonte facilement. On peut parfois être très sincère et dire « je te pardonne ». Mais après, les mauvais sentiments peuvent ressurgir, hein, dès qu'on ne va pas très bien. Et c'est là qu'on voit la valeur de cette parole « je te pardonne ». Un vrai pardon, il va nous amener à refouler les mauvais sentiments et dire « non, c'est tout, j'ai pardonné, j'ai pardonné ». C.S. Lewis a sagement dit. Il a dit « pardonner pour le moment est chose facile, mais pardonner encore et toujours la même offense, chaque fois qu'elle nous revient en mémoire, c'est là que se situe le vrai combat. » Chaque fois qu'elle revient, non. C'est là que se situe le vrai combat. Et Martin Luther King fils a dit « Le pardon n'est pas épisodique, c'est une attitude permanente. » On vit dans cette attitude. Et on ne peut pas garder donc de la haine ou de la rancœur ou de l'amertume, hein, envers un frère ou une sœur. Il faut pardonner. Sinon, on va être un vase inutile qu'on met sur une étagère, dans un placard. Et voilà. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui ne pardonne pas. Alors, il y a certainement d'autres manières de devenir, bien sûr, des vases d'un usage vil. Mais Paul nous donne quatre voies ici. On peut se le remémorer. Avoir honte de son Seigneur. Se perdre dans des discours profanes, altérer sa conscience et puis glisser, pire, dans une fausse doctrine. Choisir de suivre et d'aimer le siècle plus, le siècle présent plus que Jésus. Et refuser le pardon et l'amour à son frère ou sa sœur. Mais dans cette deuxième épître, il n'y a pas que des vases de terre, il y a aussi des vases d'honneur. Il y en a d'or, d'argent, et j'aimerais donc terminer en citant quelques-uns. Les deux premiers se trouvent au tout début de l'épître, deuxième épître, chapitre 1, et versets 3 à 5. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. » De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Comment être un vase d'honneur, un vase précieux pour le Seigneur? Là, ici, eh bien, il nous cite des femmes, tout simplement en étant une mère au foyer qui s'occupe fidèlement de ses enfants. Ce qui a marqué l'apôtre Paul, c'est la foi sincère d'abord dans la grand-mère de Timothée, donc Loïs. On ne sait pas grand-chose d'elle, mais le peu que nous apprenons dans ce verset, on se dit, c'était une femme de grande valeur. Une femme qui compte, hein. Et on le voit aussi parce que, à cause de ce qui est devenu sa fille, Eunice. Et on peut être touché, ému par la foi d'une mère, mais on l'est encore davantage quand on voit ses enfants. Ça touche. Loïs avait une foi vivante, une foi solide, une foi enracinée en Christ. Et elle a su apparemment bien communiquer ça. À Eunice, hein, bien sûr, c'est par la grâce de Dieu, bien sûr, c'est par le Saint-Esprit. Et on voit aussi eh bien, le succès de tout ça en Eunice qui a communiqué après sa foi au jeune Timothée. C'est beau. Et on peut avoir le sentiment qu'on ne fait pas grand-chose parce qu'on est seulement une mère au foyer qui s'occupe de ses enfants. Mais c'est aussi dans la lourde tâche d'enseigner nos enfants qu'on devient un vase de terre ou un vase d'or, un vase qui est mis en honneur. Loïs puis Eunice ont fait vraiment l'œuvre du Seigneur dans ce que Dieu leur demandait, si bien que leur foi sincère, elle est soulignée dans la parole éternelle de notre Dieu. Voilà, on se souvient, Loïs, Eunice, elles ont marqué. Prenons un autre vase de grande valeur, 2 Timothée 1, toujours, et versets 16 et 18. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Donc on a vu le cas de Phygèle, Hermogène, et Paul cite Onésiphore, hein, qui était leur contraire en fait à ces deux personnes. Alors on ne sait pas grand-chose encore de lui, mais on voit que simplement c'était un second, c'était un aide de camp qui était vraiment précieux. Quelqu'un qui reste en arrière-plan, mais dont on ne peut pas se passer. C'est ce que Paul dit. Paul, grand apôtre, a été consolé par Onésiphore, souvent. Son zèle, son amour, son empressement, c'était un baume pour l'apôtre Paul. Alors certes, il y avait beaucoup qui l'abandonnaient, mais il avait aussi des consolations et des consolateurs. Et heureusement, un seul homme fidèle, comme ça, combien ça peut faire du bien, vraiment. Paul ne pouvait pas compter tous les services qu'il lui avait rendus à Éphèse. Ce n'était pas possible. Et on devient un vase d'or ou d'argent simplement en servant ses frères et sœurs. Lorsque on se donne pour la cause de Christ en s'oubliant soi-même. Plus on sert les autres, plus Dieu se sert de nous. C'est ça. Et plus il remplit notre vase, il fait en sorte qu'on devienne propre à toute bonne œuvre. On peut citer encore deux autres vases d'or, d'argent. 2 Timothée 4 et verset 11. Il dit, « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Alors, il y a deux personnes ici. D'abord Luc et puis ensuite Marc. Alors, Luc, un serviteur fidèle. Luc, c'était un médecin diligent, précis, méthodique. Voilà, il donne des détails. Hein. Il a accompagné Paul dans beaucoup de ses voyages. Il a écrit non seulement l'Évangile, qui porte son nom, mais il a aussi écrit le livre des Actes. Et quand vous lisez le livre des Actes, c'est très touchant, parce que Luc ne se met pas du tout en avant. Quoi. Parfois, il dit « Nous arrivâmes ». Voilà, parce que ben il est avec eux, mais il est carrément en retrait, un homme humble, un homme effacé, c'est ce qu'on peut retenir de lui, et un homme dépendant du Saint-Esprit. Si Dieu l'a choisi pour cette tâche d'écrire deux livres et pas des petits livres, hein, des longs livres comme ça, des Écritures, c'est parce qu'il avait confiance en son serviteur. Il était dépendant de Dieu dans ses paroles, dans ses pensées. Il lui était fidèle, alors ben, hop, il était mis aussi en avant. Un deuxième homme, c'est Marc. Alors lui aussi, auteur d'un évangile, même si l'opinion qui prévaut depuis longtemps dans l'origine, c'est que ce serait Pierre en fait qui aurait dicté à Marc et Marc qui aurait écrit l'évangile. Voilà. Mais toujours est-il, Marc... c'est un exemple pour nous, même s'il n'a pas été un exemple tout le temps. Puisque à un moment, il a abandonné Paul et Barnabas, si vous vous souvenez, dans le livre des Actes. Et donc, il a abandonné, et puis le temps a passé, et finalement, il est revenu, hein, il s'est repenti, il s'est réengagé dans l'œuvre. Et il peut être pour nous un exemple de celui qui dérape, de celui qui chute, mais qui va revenir au Seigneur. C'est-à-dire que parfois, eh bien, c'est vrai qu'on peut être un usage, un vase de terre, parce qu'on chute, voilà, on tombe, et puis Dieu nous restaure, et nous relève, et fait de nous un vase d'honneur. Paul dit, hein, il m'est utile dans le ministère. C'est touchant, c'est très touchant. Il le met en avant. L'Ecclésiaste dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, même si on peut se dire j'ai mal commencé, mais tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Les jeux sont jamais faits. Il suffit qu'à un moment je dise stop, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris des mauvaises directions. Je veux revenir à toi. Relève-moi. Voilà. Aspire-moi vers toi. Et Dieu le fait. Alors, quel type de vase sommes-nous dans la maison du Seigneur ? Un flacon de parfum précieux ? Ou bien une jarre, on s'en sert pour se laver les mains ? À quoi ? Quel type de vase sommes-nous ? Ce qui est merveilleux, c'est qu'à l'origine, souvenons-nous, hein, nous sommes tous des vases d'un usage vil. Tous. Nous sommes tous pareils, tous pécheurs. Mais Dieu nous fait la grâce de changer notre cœur pour faire de nous une nouvelle personne et faire de nous des vases qui sont mis en honneur, qui le glorifient. Lors des noces de Cana, Jésus a fait son premier miracle. La Bible dit qu'il y avait la 6 vases de pierre qui étaient destinés aux purifications des Juifs. 6 vases de pierre. Et donc, c'était des vases qui servaient à faire sa toilette. On mettait les mains, hop, on se purifiait. C'était des vases plutôt vils. Et Jésus a dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Quand on en fit boire à l'ordonnateur du repas, vous vous souvenez de ce passage, il s'étonna de découvrir un si bon vin. Les vases étaient soudain devenus des vases d'une grande valeur, avec un vin précieux à l'intérieur. Et ça nous rappelle tout d'abord que le Seigneur peut changer des vases sans valeur en des vases précieux. Et puis ça nous rappelle une autre chose, ça nous enseigne une autre chose, que ce n'est pas tant le contenant que le contenu. C'est ce que le Seigneur met à l'intérieur, c'est ça qui nous donne une grande valeur. C'est la présence de Jésus en nous. Et quand on laisse la présence de Jésus se manifester, vivre, mais ça y est, on devient un vase d'honneur. C'est ça le vase d'honneur. Des vases utiles, sanctifiés, propres à toute bonne œuvre.